Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie.
Bonjour Rita.
Sur les ondes de Radio Larzac International.
Rêverie brésilienne.
Devaneios brasileiros. Voici prêt à une nouvelle incursion dans la musique brésilienne. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes d'un chemin assez inconnu dont nous avons déjà parlé dans quelques-unes de nos émissions précédentes. Pour ces voyages, j'ai sollicité la participation de la pianiste et compositrice brésilienne Maria Inês Guimarães, résidente à Paris. Bonjour Maria Inês Guimarães, nous t'avons sur les ondes de Radio Larzac parce que nous commençons aujourd'hui notre première émission sur le choro, chorinho, petit pleur.
Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous, merci pour l'invitation.
Tu es pianiste, compositeur, mais... Tu es aussi musicologue et je tiens à dire que je t'ai cité déjà dans une de mes émissions précédentes sans savoir à l'époque qui tu étais aussi, une des personnes qui sont à l'origine du club de choro de Paris.
En réalité, le club de choro de Paris, il a surgi à la Maison du Brésil à Paris à partir d'une initiative de la directrice à l'époque, Inês Machado Salim, qui nous a invités, musiciens français et brésiliens habitant ici, qui faisaient du choro chacun dans son coin, à nous réunir pour créer cette association. Et le premier concert était en décembre 2001, et on était déjà une bonne dizaine ou quinzaine. On était très heureux d'être là, et ça continue encore. Cette année, ce sera notre 15e année.
Ah, ça c'est fait. Commencer par le début. Le début, c'est qu'est-ce que le chorinho, qu'est-ce que les choros, qu'est-ce que les chorões.
Bon, le chorinho, en réalité, c'est une musique, parlons musicalement, c'est une musique à deux temps, à deux quatre, qui a la singularité d'avoir une mélodie syncopée, qui donne la nonchalance de cette mélodie. On peut citer d'autres genres cousins pour aider à imaginer le choro, c'est la begin, le tango, le ragtime. Ce sont des musiques qui se sont formées à partir du mélange Europe et Afrique dans les Amériques.
Excuse-moi, quand tu parles du tango argentin ou du tanguinho qui existait à la fin du 19e siècle?
Je parle du tango argentin. Le tanguinho, en réalité, c'était une manière d'appeler le machiche à l'époque pour les bonnes familles. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas vendre de partitions de machiche aux maisons de bonnes familles. Donc, on publiait les machiches avec le nom tanguinho ou tango au Brésil. Et ça, c'était juste pour déguiser, pour pouvoir vendre ses partitions à les bonnes filles qui jouaient du piano. Mais le tango donc, dont je parle, c'est le tango argentin, qui est aussi de la même origine du choro.
De quelle époque? Fin du 19e?
Oui, fin du 19e. On a les premières publications à la fin du 19e. Par exemple, la polka d'Antonio Callado, Flor Amorosa, a été publiée en tant que polka, vraiment, avec un rythme à la main gauche carré, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, des croches, donc, en 2-4, 13, à l'aéropéenne encore. Et après, de nos jours, on a la publication de ce morceau où le rythme va être déjà syncopé, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Il commence à rentrer naturellement dans l'écriture aussi, cette syncope qu'au début n'était faite que d'oreilles par les musiciens de là-bas.
Alors, justement, tu parles que d'oreilles. Par contre, dans l'histoire de Shaolin, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de musique écrite.
Oui, tout à fait. Donc, le Shaolin, il est une belle passerelle entre le classique et la musique populaire.
J'aime bien l'expression « une belle passerelle ».
Oui, tout à fait. Parce que, justement, les Shaolins, qui sont les musiciens qui jouent le choro, c'est un terme pour dire « les musiciens qui jouent le choro », Les chorons, pendant beaucoup d'années, ils étaient la plupart des musiciens qui ne savaient pas lire. Mais vite, il y en a eu parmi eux de ceux qui ont compris qu'il fallait quand même écrire les mélodies parce qu'elles sont très riches. Ce ne sont pas des mélodies, seulement des chansons courtes. Le choro, il a trois parties, comme un rondo A, B, C. Et du coup, c'était très difficile que la transmission orale soit fidèle, on va dire. Et il a eu vite l'envie d'écrire. Donc, on a la mélodie souvent écrite avec le chiffrage, qui est comme le chiffrage jazz, qui vient au-dessus, et qui permet après, bien sûr, de garder tout son côté ouvert d'improvisation. Toute l'harmonisation, elle est faite en improvisant sur le moment, parce qu'elle n'est pas écrite sur tous les compositeurs. La plupart des compositeurs ne les écrivaient pas. Donc, il avait juste la mélodie écrite et le chiffrage jazz, on va dire. Et ce n'est qu'après quelques temps qu'on a eu Ernesto Nazareth et Chiquinha Gonzaga, des pianistes. Et eux, ils écrivaient complètement à la manière européenne. Donc on a des vraies partitions de l'époque écrites pour piano, par exemple, avec le texte complet. Mais ça, c'était pas donc c'est les pianistes qui faisaient ça. Les autres, ils écrivaient juste mélodie, chiffrage, sans l'arrangement. Donc c'est cette passerelle. Donc on peut lire, mais on est aussi poussé à improviser.
Tu as parlé de Callado, tu as parlé d'Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga. Nous parlerons des deux. D'ailleurs, il y a eu déjà deux émissions où nous avons parlé des deux. Callado, je ne connais pas beaucoup. Qu'a-t-il fait, Callado?
Bon, il était flûtiste et un beau compositeur aussi. Il est le plus connu par ce texte dont je disais la pièce Flor Amorosa, qui est écrite pour flûte, mais qui sonne bien pour tout instrument. C'est vraiment une pièce très réussie. Et donc, il est très connu, c'est un des flûtistes les premiers, donc, qui a été connu pour ce morceau-là et pour toute son œuvre choristique, on va dire.
Il y a des amateurs, des mélomanes, des musiciens français et brésiliens avec qui j'ai discuté qui disent que le shodin est la seule et unique musique authentiquement brésilienne. Que dis-tu de cela?
Oui, c'est vrai que c'est une vraie musique brésilienne. Dans le sens où il a ce mélange africain-européen qu'il a fait surgir, mais elle a très vite pris une autonomie complète. Et elle a continué à travers les siècles, ça veut dire qu'elle a donné origine à la samba, à la bossa nova, qui sont plus connues parfois en Europe que le choro. Mais elle a continué vivante, donc elle est en plein essor au Brésil et dans le monde en ce moment. On a des clubs de choro partout dans le monde maintenant. Et donc le choro a pris une dimension complètement nouvelle depuis 15 ans. On peut dire que c'est la musique essentiellement brésilienne, peut-être la seule, je dirais pas. Je trouve que la samba a quand même une force, parce que la samba est beaucoup plus souvent chantée. Et elle porte quand même donc quelque chose de la culture qui est plus peut-être palpable à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'il manque à la samba la richesse mélodique et harmonique du choro qui donne vraiment... Tous les musiciens de la musique brésilienne aujourd'hui qui jouent avec les grands chanteurs de samba ou de MPB, la musique populaire brésilienne, enfin souvent ils sortent du milieu du choro, parce que ça forme les instrumentistes. C'est une musique qui est à la limite virtuose.
Oui.
Donc on est obligé d'être un très bon musicien pour le faire, et après, toutes les autres musiques deviennent presque faciles.
Oh, my God. finalement ce terme choro, que tu dis choro, d'accord, moi je continue à dire choro, chorinho. Le choro, pourquoi ce terme?
Plusieurs historiques qui, il y a un débat un peu là-dessus. Mais en réalité, c'est que la manière de jouer la guitare, faire pleurer la guitare, c'était une expression.
Ah, et faire pleurer la guitare, d'accord.
Du coup, c'était cette manière de jouer les musiques européennes autrement. Et on disait, bon, il fait pleurer sa guitare, chorar, donc pleurer.
Oui.
Et c'est devenu le genre. Et ça, c'est une des hypothèses. Donc, et après, il en a deux ou trois autres. Il a vraiment, dans l'histoire de la musicologie brésilienne, on a des options. Moi, je pense que celle-là, elle est très vraisemblable.
Donc, je vais répéter. Chorar, ça veut dire pleurer. Chorinho, ça veut dire petit pleur. Nico, il se souvient, non, Nico? Je te demandais de faire des petits pleurs.
Alors, l'autre chose, le diminutif, par contre,
oui.
C'est une habitude au Brésil. Donc, choro et chorinho, c'est la même chose.
Oui.
C'est juste parce qu'au Brésil, tout on dit tout vite en diminutif, c'est une manière de parler. Donc, c'est plutôt pour ça qu'il le diminutif.
Hein. Ah, mais alors là, ça me ramène une autre question. J'ai écouté de Villa-Lobos et de Radamés Nathalie des musiques qui étaient appelées choro. Et j'ai eu le sentiment qu'entre ces choros, ça veut dire donc le mot dans sa forme naturelle, et le chorinho dans les diminutifs, il y avait une différence. Il n'en a pas? Ou alors ce sont eux qui expriment différemment le chorinho,
oui,
le choro?
C'est ça. Non, c'est eux qui expriment différemment. En réalité, Radamés et Villa-Lobos, c'est pour mettre en rapport avec d'autres d'Amérique, encore une fois. Et ils sont comme, par exemple, Piazzolla et Ginastera en Argentine.
D'accord.
Ça veut dire qu'ils ont stylisé, si on peut dire, ou sont allés beaucoup plus loin. Villa-Lobos, il utilise Choros au pluriel. Son œuvre s'appelle Choros.
Oui.
Comment on dirait symphonie de Beethoven, les symphonies de Beethoven.
D'accord.
Donc c'est une œuvre qui est composée de 10 grandes œuvres orchestrales. Ça va dès le piano solo, le choro numéro 5.
Oui.
Alma Brasileira, c'est pour piano solo. Donc, mais c'est une série de pièces. Qui, en réalité, je pense qu'il y en était 12 pièces, mais on n'a pas trouvé les deux dernières. Enfin, on en a 10. Et donc, c'est le choros. Radamés, c'est encore autre chose. Il a composé une œuvre autour de la musique populaire brésilienne qui tire un peu vers le jazz, rappelle un peu Gershwin aussi. On peut parler de Gershwin aussi. Donc, ce sont des compositeurs de musique érudite qui se sont inspirés de la musique populaire.
D'accord.
Donc, cette expression, la choros, effectivement, c'est autre chose dans le sens où il utilise, c'est le titre de son œuvre pour Villa-Lobos, mais dans le langage courant, quand on dit un choro ou un chorinho, c'est la même chose.
C'est la même chose. Alors, il y en a eu un très connu qui on dit qu'il a amené le chorinho en Europe. Pixinguinha, c'est lui qui a amené le premier. Est-ce correct de dire que c'est lui qui a amené le premier, le chorinho en Europe?
En réalité, il a, c'est documenté. Hein, apparemment, c'est le premier groupe, Os Batutas.
Os Batutas.
Qui est venu en Europe, c'est le sien. En tout cas, il s'est aussi beaucoup inspiré de ce qu'il a entendu ici pour la suite de son travail. Il a eu déjà un grand échange à ce moment-là entre les musiques qui se connaissaient ici et ce qui se faisait au Brésil. Et donc, on peut le dire. Pour l'instant, je pense que c'est ce qu'on a le documenté le plus sûr, son passage à Paris avec Os Batuta.
Il paraît que le choro a une grande époque, ensuite il a pratiquement été oublié et maintenant il revient en force. Est-ce correct?
Oui, il a eu une période dans les années 60 où il a eu un grand creux et on croyait que c'était vraiment la fin du style, même s'il avait des groupes qui tenaient la route comme au Época de Ouro. Et surtout, il a eu à ce moment-là pour... la pianiste Eudoxia de Barros, qui faisait un travail très de longue haleine, très dense sur Ernesto Nazareth, donc pianiste lui aussi. Et ce passage-là a été enrichi par cette présence forte d'Eudoxia. Et après, c'est revenu en vogue le choro au piano, et puis le choro par d'autres biais a été relancé effectivement au Brésil. Et il a un nouvel essor en plus maintenant mondial avec les associations comme la nôtre qui ont été fondées partout dans le monde, un peu dans le modèle de ce que nous avions fait à Paris aussi.
en écoutant plusieurs disques, dont les vôtres, hein, le jaune, le tien, que nous passerons au cours de cette émission. À certains moments, je disais, mais mince, là, je ne vois plus chaud. Est-ce samba, est-ce chaud, est-ce samba canção? Tu sais, les frontières me paraissent difficiles à définir.
Oui, elles ne sont pas toujours évidentes. Il y a beaucoup de samba choro, hein, on dit. D'ailleurs, l'expression existe. Donc, on dit samba choro, samba canção, la solution, elle est vite venue. Parce qu'il y a, on dit choro sambado.
Ah oui.
Oui. Donc, le chorinho lui-même, il a une rythmique, disons, qui serait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, qui va mener le groupe. Mais ils vont souvent passer dans une rythmique un peu plus de samba, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, qui va être un peu différente. On peut passer de l'un à l'autre aussi. Donc, dans le cours du morceau, on peut avoir une rythmique plutôt chorinho, à passer pour une rythmique plutôt samba, baião aussi, qui est un rythme très utilisé dans les pièces du choro. Donc, le mélange, il existe tout le temps. C'est pour ça que vous ne voyez pas les frontières, c'est qu'il n'y en a vraiment pas.
Oui, d'accord. Le baião aussi, qui vient du nord-est du Brésil.
Oui,
oui.
Tout à fait.
Peut-être que c'est ça qui donne le sentiment à ces étrangers, non brésiliens, disons, d'avoir là une vraie musique brésilienne, parce qu'elle serait un peu une synthèse de plusieurs styles de musique.
Oui, tout à fait, parce que on a par exemple des magnifiques chorinhos écrits par un des plus grands joueurs de forró qui est Dominguinhos. Donc, on connaît son œuvre pour le forró, enfin, baião, et puis tout ce qui est les musiques du Nord-Est. Et lui, il a des magnifiques choros. D'ailleurs, en ce moment, cette année, le Club du Choro de Brasilia fait un hommage à lui avec le projet Pour Toujours Dominguinhos, parce qu'il est décédé il y a 2 ou 3 ans. Et là, on fait revivre ses choros. Donc, c'est magnifique. C'est vraiment... une explication, oui, pour ce sentiment de la musique qui représente tout le pays, oui.
Thank you.
manière, l'histoire du choro, on a un peu fait dans la manière où Jean-Mirel l'a raconté aujourd'hui. Ça veut dire que je parlais de le mélange des musiques européennes, polka, scottish, valse, avec la rythmique africaine, qui a donné dans les salons brésiliens, à l'origine, une manière nouvelle de jouer, qui on appelait donc, pleure, fais pleurer ta guitare, fais chanter ta flûte. Et c'est devenu une manière de jouer. Et avec le temps, on a appelé ça le genre choro, qui est un genre surtout instrumental, mais on peut chanter aussi. Hein. Le choro le plus connu, on le connaît chanter, un chico chico ka, un chico chico la, c'est à comène, tout le meu fuba. Donc il y en a des choros chantés, c'est d'ailleurs très difficile, hein. C'est une technique particulière, le chant dans le choro. Mais c'est une musique fondamentalement instrumentale. Et les compositeurs principaux, bon, au début, étaient plutôt des flûtistes, des guitaristes qui faisaient des ensembles, qui formaient des ensembles, de petits ensembles de trois au début, qu'on appelait terno, et qui après se sont ouverts et qui sont devenus tous les possibles. Hein. Donc on peut aujourd'hui trouver marimba, batterie et contrebasse qui font du choro. Donc c'est vraiment un genre. Et ces compositeurs donc qui tissent l'histoire du choro, si on prend donc Calado, flûtiste, Chiquinha Gonzaga et Ernesto Nazaré au piano, Pixinguinha, flûtiste, et après son passage à Paris, et aussi peut-être parce qu'il a eu un problème physique, mais bon, il est passé au saxophone, où il est très connu par ses duos avec Benedito Lacerda, un autre flûtiste, donc la flûte très très présente, hein. On ne peut pas oublier Jacob Bandolin, parce pour la bandoline, qui est un instrument qui est devenu soliste un peu plus tard dans l'histoire du choro. Pour citer le cavaquinho, l'instrument qui fait souvent le centre, l'accompagnement, on doit penser à Valdir Azevedo, et puis tant d'autres, mais bon, je vais faire une ligne au fil rouge comme ça. Plus proche de nous, on a le flûtiste Altamiro Carrillo, qui vient de décéder il y a un an ou deux. On a parlé, bien sûr, de l'importance du choro dans la production classique au Brésil. Donc, il faut penser à Villa-Lobos et à Radamés Inácio, mais aussi Claudio Santoro a écrit des choros et des modinhas dans ses concertos pour piano et orchestre. Et puis, je pense que j'aimerais bien citer, en faisant ce historique plutôt de compositeur, parce qu'il est instrumentiste tous, hein, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui donc en activité, le grand Hamilton Diolande qui a fait carrément construire un instrument pour lui, une mandoline plus grande avec plus de cordes pour qu'il puisse faire vraiment des solos comme s'il était un guitariste ou un pianiste. Yamandou Costa, le grand génie de la guitare 7 cordes, parce que la guitare 7 cordes c'est un instrument typique du choro. Donc, elle a existé ailleurs, mais elle est restée au Brésil, est devenue carrément un instrument brésilien maintenant. Il y a des luthiers qui sont recherchés partout dans le monde pour cet instrument assez singulier. Et puis là, les grands de nos jours, César Rovers, c'est un saxophoniste qui joue dans le groupe Código Ternário à São Paulo. Il a des grands groupes partout au Brésil. Il en a un flûtiste, saxophoniste, compositeur à Curitiba, Gabriel Schwartz, qui fait un travail magnifique aussi.
Thank you.
c'est une musique qui a une histoire très forte, très dense. Et c'est un peu, je dirais, comme au cinéma. On a du mal maintenant à faire l'historique parce que ça fait quand même un bon moment. Et puis, ça a été toujours peuplé de grands compositeurs, grands interprètes. Donc, voilà, je sais pas si ça vous contente, mais c'est une
absolument. Oui, ça me contente d'une part, et d'autre part, ça me conforte dans cette idée que c'est une musique de synthèse. Parce que là, nous avons eu tout, Rio Grande do Sul, nous avons eu le Paraná, nous avons eu le Nord-Est avec le Bayon, nous avons eu Dominguinhos. Donc, c'est une musique, au départ, je pensais que le Chorinho était une musique urbaine, et maintenant, je pense qu'il faut que je revienne et que je... partent dans un autre sens de recherche.
Non, c'est une musique urbaine, mais elle n'est pas centrée seulement sur l'ancienne capitale du Brésil.
Oui, oui, ouais. D'accord.
Elle, oui. C'est une musique urbaine, mais c'est une musique de tout le pays. Elle a toujours été, simplement on ne le savait pas au départ. Mais ça a été très, très vite, ça a été composé dans tout le pays. Maintenant, on fait les recherches, on trouve des compositions de la fin du 19e, du nord au sud.
Alors, un petit peu, actuellement, qu'est-ce que c'est le Club du Choro de Paris?
Bon, c'est ce groupe fondé par Inés Machado Salim, qui s'est mise donc au début à jouer d'une manière très informelle ensemble. On faisait des concerts avec un groupe hétérogène des musiciens professionnels, amateurs. Et après, on a commencé à organiser ça un peu plus formellement, on va dire, avec des cours réguliers le lundi, où on a des professeurs brésiliens qui habitent en France parce qu'ils viennent faire leur doctorat ou autre, donc ils restent 2 ou 3 ans ou 4. Et donc ça change, c'est dynamique. Ou des professeurs français depuis quelques années qui sont des professionnels qui ont choisi le choro comme métier. Donc ça nous permet d'avoir maintenant cette régularité dans les cours. Et des Brésiliens de passage qui sont là pour 3 semaines, qu'on profite, qui viennent donc apporter cette fraîcheur. Donc on est toujours très actualisé, présent dans la vie du choro au Brésil. Et en fait, donc il y a 3 points forts dans l'année. C'est la rentrée, on fait des portes ouvertes avec un concert, un Brésilien invité qui est de passage ou qui vient pour l'occasion. Le festival de choro qui est notre principale activité de promotion, qui est le 6 concerts que j'appelle, donc ce sont des doubles concerts. Donc, sur 3 soirées, on fait 2 concerts par soirée pour faire un éventail de la diversité du choro, ce dont on vient de parler. Donc j'essaye de faire venir des groupes de tout le pays, du nord au sud, pour montrer la diversité. Et ces musiciens qui sont là, ils donnent des stages pendant 3 jours à des musiciens qui viennent du monde entier pour le festival international et rencontres de choro de Paris qui ont lieu tous les ans depuis là 12 ans. Ça va être notre 12e festival. Et en fin d'année, on a la couture avec un autre groupe brésilien qui vient et les élèves jouent. Ce sont des élèves, surtout des adultes qui font d'autres métiers et qui jouent de l'instrument et qui veulent connaître cette musique. Mais on a aussi formé plusieurs professionnels qui sont venus pour connaître le genre et qui aujourd'hui ont des groupes de choro à Paris. Donc aujourd'hui, vous imaginez que nous avons 20aine de groupes de choro formés par des Français, des Allemands, des Russes et des Brésiliens à Paris.
C'est rassembleur comme aussi les écoles de samba. C'est intéressant. Je ne savais pas que le choro prenait cette dimension de rassemblement.
Oui, c'est très rassembleur. Et puis le français, enfin, à Paris aujourd'hui, on a une ambiance de choro vraiment, comme dans les villes brésiliennes les plus qui se mouvent un peu plus, comme Belo Horizonte, Curitiba, bon, Rio de Janeiro, bien sûr, et qui ont des rodas presque tous les jours. À Paris, la 2 semaines, on a des rodas de choro. C'est la jam session de la musique brésilienne. On se réunit, on se met en ronde pour jouer ensemble. Il y en a parfois presque tous les jours dans la semaine. C'est impressionnant. Donc on peut écouter du choro toutes les semaines à Paris maintenant, avec des groupes qui ont souvent des musiciens qui sont passés par le club de choro, pas toujours, hein, mais on a donné quand même un bon canal, un grand canal de transmission et de promotion de cette musique en Europe depuis 15 ans.
Eh bien, nous essayerons de diffuser le choro parce que c'est étonnant quand on parle choro. Peut-être que les gens connaissent, ont déjà entendu, mais le terme, ils ne le connaissent pas et donc sont tout étonnés.
Oui, tout à fait.
La pendule qui est devant moi, elle est terrible. Elle m'appelle toujours, elle me fait toujours des signes, elle commence à crier. Et donc, je suis obligée de arrêter notre conversation qui fut très intéressante. Tous nos remerciements ici de Radio Larzac. Peut-être qu'un jour nous vous aurons à Millau, pourquoi pas.
Avec un immense plaisir. Et c'est moi qui vous remercie.
pas. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine au même jour et à la même heure pour notre émission d'écoute de la musique de concert ou musique académique. Merci à Nico pour l'enregistrement de notre interview. Merci à Marie qui assure la technique. Merci à vous toutes et tous. Je vous rappelle que vous pouvez écouter les émissions précédentes en entrant dans le site de Radio Larzac, ensuite dans l'onglet son, ensuite dans l'onglet émission et...
Rêverie brésilienne, rien que pour vous. Restez sur nos ondes.
Vous ne regretterez pas.